Mes frères, nous allons donc avoir la cérémonie de profession. Je vous donne quelques petites explications sur cette cérémonie. D'abord, le père prieur va lire les austérités de l'ordre. Alors, cette lecture se fait en latin, elle est prévue ainsi dans le cérémonial. Donc, pendant cette lecture, nous sommes assis. Cette lecture, en fait, expose aux nouveaux prophets quels sont les règles, les austérités qu'ils devront suivre pour être de bons religieux. Et puis ensuite auront lieu les professions temporaires, donc de nos frères Michel-Marie et Augustin-Marie, avec bénédiction du scapulaire à l'occasion de ces professions temporaires. On donne un scapulaire neuf en souvenir de la Sainte Vierge qui elle-même a donné le scapulaire de l'ordre au bienheureux Réginald au tout début de l'ordre. Et puis enfin auront lieu les deux professions perpétuelles, qui elles sont encore plus simples d'une certaine manière. Vous voyez, plus on avance dans l'ordre, plus les cérémonies se simplifient par rapport à la cérémonie de vêture. Ces cérémonies sont beaucoup plus simples. Donc les professions perpétuelles consistent uniquement à faire profession entre les mains du père prieur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, cher frère Alain, cher frère Augustinio, frère Michel-Marie et frère Augustin-Marie, et vous tous aussi, chers frères en Saint-Dominique, vous tous, chers fidèles, les vœux de religion que nos frères vont prononcer dans quelques instants constituent essentiellement ce qu'on appelle l'état religieux. Le religieux, c'est celui qui fait vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Mais pourquoi faire des vœux ? Ne peut-on pas se sanctifier et devenir parfait chrétien sans faire de vœux? N'est-il pas possible d'atteindre la perfection de la charité, en quoi consiste la perfection de la vie chrétienne, en dehors des vœux de religion, en restant dans le monde? Car enfin, notre Seigneur nous a seulement commandé de l'aimer par-dessus toute chose, de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toutes nos forces, et d'aimer le prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Nous avons entendu ça dimanche dernier dans l'Évangile. Notre Seigneur n'a pas précisé qu'il était nécessaire de faire des vœux pour cela. Ce qu'il a uniquement demandé, ce qui est de précepte, c'est de ne rien aimer plus que Dieu, ni contre Dieu, ni autant que Dieu. Il n'y a pas besoin de vœux pour cela. C'est vrai. À titre de fin, la perfection de la vie chrétienne réside uniquement dans la perfection de la charité. Et cela vaut aussi bien pour les religieux que pour les chrétiens qui vivent dans le monde. Le but est le même pour tous, pour le religieux dans son cloître, comme pour le chrétien dans le siècle. Pour parvenir à la perfection commandée par notre Seigneur, il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, de toutes ses forces, et aimer le prochain comme soi-même. Mais pour atteindre ce but unique, deux voies s'offrent à l'homme. On peut se contenter du précepte, c'est la voie commune, ce qui ne veut pas dire que c'est la voie de la médiocrité, car encore une fois, il s'agit d'aimer Dieu de tout son cœur. Et quand il faut le faire jour après jour, au milieu des tracas du monde, ce n'est pas facile. Aussi existe-t-il une autre voie, une voie plus excellente, plus directe, qu'on appelle la voie des conseils évangéliques, à laquelle Dieu appelle certaines âmes, comme on le voit dans l'épisode évangélique du jeune homme riche. « Si tu veux être parfait, dit Jésus à ce jeune homme qui, tout en observant les commandements, reste insatisfait. « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens, suis-moi. » Alors vous le voyez, les conseils évangéliques sont des moyens, des instruments destinés à faciliter la parfaite observance du précepte de l'amour de Dieu et du prochain que Dieu a assigné comme but à tous les hommes. Alors comment cela se fait-il ? Eh bien, ces conseils sont des moyens de perfection en ce qu'ils font radicalement renoncer aux trois plus grands biens que l'homme possède en ce monde, à savoir les richesses, auxquelles le religieux renonce par le vœu de pauvreté, le mariage, auquel le religieux renonce par le vœu de chasteté, et la libre disposition de soi-même à laquelle le religieux renonce par le vœu d'obéissance. Ces trois biens, notez-le, sont des biens très réels, très honorables, parfaitement licites, voulus de Dieu, la possession de richesses extérieures, la fondation d'une famille, la libre disposition de soi-même sont parfaitement légitimes. Et de soi, elles ne sont pas contraires à la charité. Personne ne le conteste. Mais il faut bien reconnaître que ce sont là des biens auxquels l'homme a tendance à s'attacher facilement et profondément, au point que ces attaches en viennent à entraver l'acte de sa charité et à compromettre le mouvement de son cœur vers Dieu. Or, pour aimer Dieu parfaitement, la volonté doit être pleinement libre, entièrement dégagée de l'attrait de toute chose. Car, dit saint Thomas, on ne peut se porter totalement sur plusieurs choses à la fois. C'est l'expérience. Et comme l'homme est placé entre les biens de ce monde où il vit et les biens spirituels qui constituent sa béatitude éternelle, il s'attache d'autant plus aux uns qu'il se détache des autres. C'est fatal. Par conséquent, il faut que l'homme se détache intérieurement, affectivement, des biens créés s'il veut aimer Dieu parfaitement. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. C'est une condition indispensable. Mais nous savons tous par expérience que ce détachement intérieur et affectif est difficile, sauf s'il est accompagné d'un détachement réel et effectif. Comment en effet garder son cœur détaché des richesses si de fait on en possède beaucoup? C'est pas impossible. Abraham, par exemple, fut très saint tout en étant très riche. C'est saint Thomas qui le constate. Mais c'était Abraham, un ami de Dieu, un homme éprouvé en vertu et totalement désintéressé. De même, comment éviter les attraits de la sensualité et ce que saint Paul appelle les épreuves de la chair quand on est marié et dans le monde? C'est possible, mais cela demande beaucoup de prières, de sacrifices, d'efforts, parce que l'homme est marqué par les suites du péché originel et de tous ses péchés personnels. Plus encore, comment échapper à l'esprit d'indépendance et aux sollicitations de la liberté déréglée quand on est son propre maître? Cela aussi est possible, mais c'est de loin le plus difficile. Livré à lui-même, l'homme devient facilement une girouette, flottant à tout vent d'opinion, comme dit saint Paul. Ou bien il ne pense plus qu'à construire son petit bonheur égoïste sur terre, sans Dieu. Alors il faut en convenir, si l'homme est retenu par les affections et les soucis du temporel, du gouvernement d'une famille, de la conduite de sa propre vie, il lui est difficile de garder le parfait amour de Dieu et le minimum de vie contemplative qu'exige l'exercice de la charité. L'homme est partagé. C'est l'enseignement de saint Paul, vous le connaissez bien. Saint Paul dit aux Corinthiens, « Je voudrais vous voir exempt de soucis. L'homme qui n'est pas marié a souci des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui est marié a souci des affaires du monde, des moyens de plaire à sa femme. » Et le voilà partagé. Alors c'est pourquoi le renoncement effectif aux trois grands biens humains est conseillé par le Seigneur et par l'Église comme le moyen le plus facile, le plus sûr et le plus rapide de parvenir à la perfection de la charité. Et c'est ce moyen que vous avez choisi sous l'inspiration de Dieu. Grâce aux trois vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, vous pourrez vaquer à Dieu plus librement, le contempler, l'aimer et accomplir sa volonté plus facilement, sans obstacle. Ce sont les mots mêmes de saint Thomas. Ainsi, par cette promesse faite à Dieu, vous quittez un état de vie, celui du monde, pour vous fixer dans un nouvel état, meilleur en soi, plus parfait, qui vous permettra de consacrer toute votre vie, toute votre âme et toutes vos forces à la poursuite effective de la perfection de la charité. Non pas, bien sûr, qu'en prononçant ces vœux, vous deveniez saint ipso facto, c'est évident, mais vous promettez d'y tendre et vous prenez les moyens les plus adaptés et les plus directs pour y parvenir. Voilà le grand avantage et la grande beauté de la vie religieuse. Mais il y a plus. Les vœux de religion n'ont pas seulement pour effet d'obliger le religieux à pratiquer les conseils évangéliques, mais aussi et surtout de le consacrer entièrement à Dieu et à son service. Autrement dit, ils ne réalisent pas seulement une œuvre négative de libération, ils sont directement et positivement un culte rendu à Dieu. Et ça, c'est très beau. Par ses vœux, le religieux s'offre à Dieu totalement, totalitaire, comme dit souvent saint Thomas. Il donne tout ce qu'il est et tout ce qu'il a, non seulement actuellement, mais aussi en promesse, tout ce qu'il a pouvoir de devenir ou de produire dans le futur. En sorte que la profession religieuse, spécialement la profession perpétuelle, constitue un holocauste, le sacrifice qui dans l'Ancien Testament était le plus parfait, un sacrifice parfait en d'autres termes. Et de là vient que les anciens considéraient la profession solennelle comme un second baptême qui efface par sa vertu propre les péchés et leurs dettes, sous réserve bien sûr qu'ils aient été confessés. Et puisque par ses vœux le religieux ne s'appartient plus, il est consacré comme un calice, puisqu'il appartient à Dieu et à son seul service, eh bien il s'ensuit que toute sa vie, tous ses actes, même les plus humbles, même les plus communs, deviennent des actes de religion, des actes de culte, et acquièrent à ce titre un mérite spécial. Si maintenant vous considérez la formule de profession que vous allez dire dans quelques moments, dans quelques instants, vous pourrez constater que ce n'est pas seulement à Dieu que vous allez promettre obéissance, mais aussi à saint Dominique. Promito obedientiam Deo et beato Dominico. Car vos vœux s'inscrivent dans un cadre bien précis, dans une famille, la famille dominicaine. Vous allez promettre obéissance selon la règle et les constitutions de l'ordre des prêcheurs. Or, cet ordre a une finalité spécifique, une forme de vie bien particulière, qu'on appelle la vie apostolique, une vie à la fois contemplative et active, la vie des apôtres. Dans cette vie, qu'est-ce qui prime ? L'aspect contemplatif ou l'aspect actif ? Eh bien, c'est la contemplation. L'ordre des prêcheurs est éminemment contemplatif. Il a toujours mis l'accent en premier lieu sur la contemplation. Et sa vie contemplative n'est pas ordonnée à sa vie active comme un simple moyen ordonné à sa fin. Le dominicain prie, étudie, contemple la vérité pour elle-même, comme il contemple Dieu pour lui-même, pour son amour. Et l'action, c'est-à-dire la prédication proprement dite de la vérité contemplée, vient après. Elle suit la contemplation, comme l'effet suit sa cause. Telle est la doctrine de l'ordre, la loi première de sa législation et aussi sa devise, « Contemplari et contemplata aliis tradere ». Contempler et puis livrer aux autres le fruit, le trop-plein de sa contemplation. La fécondité et l'efficacité de votre futur ministère extérieur dépendront donc du degré de surabondance et de plénitude de contemplation que vous aurez atteint. Et c'est pour intensifier cette vie contemplative jusqu'à la plénitude, jusqu'à la surabondance, que nos constitutions énumèrent quatre moyens principaux, quatre sources vitales qui donnent à l'ordre des prêcheurs sa physionomie propre. Ce sont les trois vœux, dont nous avons parlé, la récitation commune de l'office canonial, tous les jours, les frères, prophètes, chantent ou disent l'office au cœur, tous ensemble. Les observances monastiques, les pénitences, les jeûnes, etc. Et puis, l'étude assidue de la vérité révélée. Le dominicain est un étudiant. Et ces quatre choses vont désormais former le fond de votre vie. Elle le forme déjà d'ailleurs. Puisse-t-elle façonner vos âmes et faire de vous de vrais dominicains, à l'image de notre Père saint Dominique, vous remplir du feu de la charité et de la lumière de la vérité, non pas pour que vous gardiez ce trésor pour vous-même, mais pour que vous en rendiez témoignage et le communiquer aux âmes par la prédication quand l'heure en sera venue. Mais il faut s'y préparer. Et puis enfin, saint Dominique a voulu que la profession religieuse de ses enfants fût aussi une consécration solennelle à la Vierge Marie, comme à leur mère. Promito obedientiam Deo, et beate Mariae Virginie. Vous allez dire ces mots dans quelques moments. Et il n'y a que dans l'ordre des frères prêcheurs que l'on fait vœu d'obéissance à la Vierge Marie. C'est ce qu'a noté un ancien historien de l'ordre. C'est donc par les mains de Notre-Dame que le prophet se donne à Dieu et à saint Dominique. Notre-Dame est la dépositaire de ses vœux, le sein maternel dans lequel il est enfanté et formé à la plénitude de la vie dominicaine. Le cardinal dominicain Hugues de Saint-Cher, au XIIIe siècle, commentant ce texte de l'Écriture, « Rigabo hortum meum plantationum »,« J'arroserai le jardin que j'ai planté », c'est un passage de l'Ecclésiastique, y voit une promesse faite par la Sainte Vierge aux novices et aux religieux de l'ordre qu'elle considère comme son jardin. Elle en parcourt les parterres, s'arrête devant chaque fleur et fait descendre sur elle la rosée du ciel. Et en retour, le frère prêcheur promet de se consacrer à son service, de l'honorer, de l'aimer, de la faire connaître, tout spécialement par le rosaire qu'elle a elle-même donné à saint Dominique. Sans le rosaire, en effet, Marie serait-elle autant connue, aimée, priée? Or, c'est à l'ordre de saint Dominique que l'Église a confié ce dépôt, comme un patrimoine de famille, une grâce d'État. Le rosaire est votre bien propre, l'apanage de votre famille, rappelait Léon XIII au vicaire général de l'ordre en 1883. C'est donc à vous qu'il appartient, avant tous les autres, de distribuer ce trésor confié à votre sollicitude et de faire part à l'univers du bien qui vous a été dévolu. Le 14 août 1979, il y a donc 39 ans, jour pour jour, les premiers frères de notre communauté arrivaient de nuit à La Haye aux Bonshommes pour en prendre possession. Les bâtiments étaient délabrés, les frères étaient peu nombreux, orphelins de maîtres dominicains, même pas prêtres, n'ayant encore suivi qu'une seule année d'études à Écône, grâce à la paternelle bienveillance de Mgr Lefebvre. Et le lendemain, jour de l'Assomption, ils se rassemblèrent devant la statue de la Vierge, qui se trouvait alors dehors, à quelques mètres du chevet de l'église, à l'ombre de l'arbre de Judée, qui est toujours là, au même endroit. Et là, ils confièrent leur fondation à Notre-Dame de l'Assomption pour qu'elle en soit la gardienne, la mère, la reine et la maîtresse. Rigabo hortum meum plantationum, j'arroserai le jardin que j'ai planté, a promis la Vierge. Eh bien, depuis lors, la petite plante, en effet, a poussé. Alors aujourd'hui, demandons à Notre-Dame de l'Assomption de continuer à arroser sa plante pour qu'elle croisse « numero et merito », comme on dit dans la belle oraison, la post-communion, pour demander des vocations religieuses, et que cette petite plante reste bien fidèle. Et puis remercions la mère des prêcheurs de toutes les bontés qu'elle nous a si abondamment accordées jusqu'à ce jour. « Misericordias Domini in aeternum cantabo ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.